Bienvenue au balado Soirée Peinture. On tient à remercier la BIS, fier commanditaire du podcast. Aujourd'hui, épisode 79, on fait un retour avec David nous éduque. David nous jase de Chain of Command, qui est un système de jeu historique qu'il a eu la chance d'essayer dernièrement et qu'il a décidé de nous faire une petite intro rapide des moments, des phases, des choses qu'il a le plus appréciées de son expérience. Donc sur ce, sans plus attendre, bonne soirée peinture! David nous éduque. David, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu nous éduquer. Est-ce que tu es prêt?
Oui.
Parce que nous, on est prêts. Fait que David éduque.
Bon, d'accord. Alors aujourd'hui... aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un jeu. Ah! Grâce à... surprise, ouais. Grâce à John... il a organisé une partie d'initiation de Chain of Command. Je pense qu'il l'affiche des fois sur le groupe de soirée peinture, des fois sur la BIS, des fois sur le Discord du club, mais il essaie d'introduire les gens à ce jeu-là qu'il aime beaucoup. Donc, j'ai eu la chance d'essayer ce jeu-là, un jeu de Two Fat Lardies. Je pense qu'il y a déjà 10 ans et qu'il en est toujours à sa première édition. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Fait que ce qu'ils nous avaient organisé, c'est un petit scénario fin Deuxième Guerre mondiale en Normandie, donc avec des petits bâtiments de ferme, des haies pour cacher une route, etc. C'est vraiment une belle table, comme ils ont l'habitude de faire.
Ben oui.
Anglais contre allemand. Cette fois-là, j'ai joué les Anglais. J'étais tanné de jouer les Allemands. Mmh. J'ai eu une belle game avec Gabriel. C'était super intéressant. Puis la dernière fois que j'avais joué contre Gabriel... il avait joué les Anglais et j'avais joué les Allemands. Fait qu'on a fait un petit retour des choses. Chain of Command, donc, ça ressemble à... c'est un jeu de Deuxième Guerre mondiale basé sur les pelotons. Un platoon en anglais. Donc, dans le fond, tu vas avoir à la base trois unités selon les types d'armées. Là. Fait que tu vas avoir les armées par nation, allemand, anglais, etc. Mais dans ça, tu vas avoir différents types d'armées... je pense que tu as les paras anglais, l'armée de base anglaise, etc. Puis là, tu choisis là-dedans. Je ne vais pas vous parler de tout le jeu parce qu'on a juste fait une partie d'introduction. Fait que je n'ai pas encore eu le temps de connaître tout le jeu. J'ai reçu mon livre que j'ai commandé directement à Two Fat Lardies. J'ai lu un peu les règles. Mais je vais m'attarder sur la phase patrouille que je trouve super intéressante. Comment on fait l'armée aussi, ça c'est fascinant, vous allez voir. Un petit peu les activations, puis je vais vous mentionner les campagnes à la fin. Donc, la phase patrouille, c'est la première chose. C'est comme un mini-jeu avant le jeu. Là, tu te dis mini-jeu avant le jeu, oh my god, ça va être long, ça fait juste rajouter de la lourdeur. Je n'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé ça, en fait, très intéressant parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un épisode précédent, ou c'était peut-être au printemps même.
Je veux dire, il y a deux saisons.
C'est vrai, c'est ça.
Donne une chance, David. Mais maintenant, je vais te dire oui, là, vas-y.
J'avais fait un David nous éduque sur la reconnaissance, là. Comment intégrer les concepts de reconnaissance dans des games.
Ça, c'était-tu l'épisode que tu parlais de ploiement au lieu de déploiement?
Non. Ça, c'est quand on a parlé de.
Et ça, moi, j'ai fait un effort, là.
Ben oui. Non, mais je reconnais.
Mais ça a resté sans résultat.
Ben, ouais, voilà. Bravo. Ah! Quelle belle intégration.
merci.
Mais tu sais, l'idée que souvent, avant une bataille, souvent les armées font de la reconnaissance, essayent de savoir où est l'armée de l'autre, où sont les principales forces, puis que tu peux créer des scénarios autour de ça pour comme rajouter à ta campagne ou faire des petites escarmouches. Mais de prendre ça en compte, ça peut rajouter de la saveur à ton scénario. Fait que la phase de patrouille, c'est un peu ça qu'elle vient faire. Là, pour que vous puissiez suivre, puis je sais que, entre autres, Kevin, tu es très visuel, j'ai mis des photos dans notre groupe général sur notre Discord.
On va checker ça.
Et après le Blanchitsu puis Rogue Heroes, juste en haut. Fait que dans le fond, comment ça marche? C'est que tu as des marqueurs qui sont l'équivalent d'un gabarit 3 pouces de Game Workshop. T'as ceux de ta faction, l'ennemi en a aussi. Selon les scénarios, tu peux en avoir plus ou moins, mais généralement, tu en as 4. Ça peut changer. Puis là, tu vas bouger ces marqueurs-là. Tu les places sur ton bord de table ou sur la zone qui est définie comme ta zone de début dans le scénario. Et là, tour à tour, chaque joueur va les bouger. Ces gabarits-là peuvent bouger de 12 pouces. et doivent au maximum être à 12 pouces de distance et faire une chaîne complète tout le temps.
Okay.
Ça a l'air weird, hein?
Ouais, ben, un peu, là. Bon, je dois aussi avouer qu'en scrollant, je suis tombé sur ta version de Rogue Heroes de l'autre épisode d'avant, ce que tu parlais pour les déguisements d'Halloween.
Ouais.
Puis en voyant les photos, je me suis dit, s'il y a une version Wish de ça, c'est clair que je veux le porter. Mais bon, on revient au sujet principal.
Fait que juste en haut, l'image de droite, tu devrais voir comme les symboles, ouais, avec des étoiles, avec des flèches double sens 12 pouces, c'est pour montrer qu'est-ce que ça devrait faire.
Hey, ça, clairement qu'on va mettre ça en image de support visuel sur l'épisode pour que les gens ne soient pas trop.
Oui. Quand on a fait. John nous aurait fait une phase patrouille test, puis après ça, on l'a refait parce qu'il voulait qu'on s'essaye puis qu'on fasse les erreurs communes pour après ça nous les expliquer pour qu'après ça, on puisse la refaire. C'est super intéressant. Tu te mets sur ton bord de table, puis l'erreur que les deux, Gabriel et moi, on a faite en partant, c'est d'espacer tous nos gabarits de 12 pouces pour couvrir la plus grande zone possible.
OK.
Pardon. Puis, mais dans le fond, ça fait que ça te bloque dans tes mouvements vu que tu vas juste pouvoir bouger les bouts parce qu'il faut toujours que tu restes à 12 pouces des autres et que tu ne brises pas ta chaîne. Et t'es mieux de les mettre plus proches, puis après ça, de les disperser selon les mouvements que l'ennemi va faire. Et le but, c'est que tu arrives à 12 pouces. Quand tu arrives à 12 pouces du gabarit de l'ennemi, ils sont. Comment on dit ça? Ça y est.
Tu vas l'avoir.
Ils sont verrouillés. Voilà, pardon.
Verrouillés.
Fait que là, ils ne bougent plus à partir de ce moment-là. Puis le but, c'est que tout le monde soit verrouillé ou qu'il y ait un des deux joueurs qui soit verrouillé. Puis là, ça arrête.
Okay. Fait
que tu bouges ça, puis là, t'as toute une stratégie sur comment tu les bouges, parce qu'après ça, tu vois l'autre photo où il y a comme des lignes. Tu vas faire partir des lignes des gabarits ennemis au centre de ton gabarit à toi. Ça va te donner la zone où tu peux mettre ton point de chute. Et le point de chute doit soit être à plus de 6 pouces de ton gabarit et derrière un décor qui donne du couvert. Sinon, il commence sur le bord de la table. Fait que c'est comme ça que tu vas aller te chercher des positions le plus rapprochées possible. Fait que la partie peut vraiment commencer, puis vous êtes face à face, puis il y a déjà du tir. Ça, c'est intéressant. Fait que ça a l'air. C'est un peu difficile à expliquer, là, je me rends compte même en le disant. Là, mais...
ouais, c'est pas évident de pouvoir tout expliquer les nuances de ce jeu-là, surtout quand on parle de pions, de distance. Puis
c'est
de,
ça.
Ouais. Mais maintenant qu'on crée une image. Là.
Dans le fond, l'idée, c'est. Fais penser avant la bataille, tu as des patrouilles qui se sont rencontrées, puis quand ton gabarit est verrouillé, c'est à peu près là que tes deux patrouilles se sont rencontrées. Ils ont échangé 2-3 coups de feu, puis sont retournés à leurs généraux pour dire OK, ils sont à peu près là. Puis c'est pour ça que ça détermine que tu peux te déployer à cette distance-là.
OK.
Puis une fois que tu as compris le concept, pour vrai, ça prend pas 15 minutes, là, ça prend 5-10 minutes. À moins que l'autre personne réfléchisse longtemps à ses mouvements, là, mais. Cette personne-là va le faire dans la game aussi.
Ah oui.
Mais ça, c'est le genre de truc super le fun. Puis c'est pas tellement ancré dans les mécaniques de Chain of Command que tu pourrais même le faire en 40 000. Si tu veux un déploiement qui sort de l'ordinaire, ou même dans 30K, tiens, qui sort de l'ordinaire, qui représente un peu les patrouilles qu'avant, paf, tu sors tes gabarits, tac, 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 tu fais tes petits mouvements. Puis là, ça te donne, selon les stratégies adoptées par l'autre, puis quand tu as réussi à verrouiller ton adversaire, ça te donne où tu peux commencer. Fait que ça donne un déploiement qui n'est pas prévisible, puis ça peut rajouter du piment à ta partie.
Là, quand tu parles de rajouter du piment, on parle de quelque chose de trop épicé. Là.
Ah, juste assez. Juste assez pour faire le fun.
Mais je trouve ça le fun qu'il y ait comme une mécanique qui se. Il y a des mécaniques comme ça, je pense qu'effectivement, comme tu dis, ça se transporte bien d'un jeu à l'autre parce que ça n'utilise pas trop d'une mécanique particulière. Tu sais, mettons, les mécaniques, je donne un exemple, mais mettons, tu devrais prendre des affaires de Lord of the Rings avec les points de héroïque, puis tu devrais les amener dans Warcry, même si c'est deux jeux de skirmish, ça reste un petit peu difficile pareil parce qu'il y en a un qui est vraiment implémenté dans les resource management puis dans la façon dont le jeu se joue. Littéralement. Mais là, on est en train de parler de un. C'est vraiment une phase en soi. Fait que tu peux comme le prendre, le sortir, le mettre ailleurs, tu tweaks des petites affaires, mais ça n'a pas l'air trop complexe.
C'est ça, exactement.
Puis là, après ça, le but, c'est quoi que tu ferais après? Mettons, là, ça, c'est la phase de patrouille, fait que tu as fait ta phase de patrouille, mais après ça, c'est quoi les conséquences?
Fait que quand tu as fait tes lignes, puis tu as placé ton point de chute à 6 pouces de ton pion derrière un couvert ou sur le bord de la table, si tu n'avais pas de couvert, c'est là que tu peux commencer à déployer tes unités. Puis, il me semble qu'il y avait ça dans Warcry aussi, les unités, tu ne les déploies pas toutes d'un coup.
Oui, effectivement.
Tu les déploies au fur et à mesure de la game.
Ouais, ben dans le fond, tu les splits en différents groupes, là, effectivement. Puis ils peuvent arriver en renfort pendant la game.
Fait que t'as un peu ce concept-là, pareil dans Chain of Command.
OK.
Mais là, on n'a pas joué.
Ouais, comme tu disais, t'étais comme au début de ton expérimentation.
Mais j'avais l'impression, puis là, John me corrigera, je me trompe, mais que tu pouvais peut-être quasiment jouer une game au complet sans avoir emmené toute ton armée. Je sais pas si c'est souhaitable, je sais pas si c'est le fun, mais j'avais l'impression que ça pouvait arriver.
Dans le sens qu'il est possible que tu fasses ta liste d'armées, que tu viennes pour pouvoir jouer, puis que ce qui se déploie, c'est le deux tiers de ton armée, puis que le troisième tiers, il rentre juste jamais?
Ce serait ton choix. Ce serait un choix.
OK, ce serait un choix. Ce serait pas quelque choix, chose d'aléatoire ou... Ce serait juste toi qui pourrais dire... Mais c'est quoi ton avantage à ne pas faire rentrer ta troisième?
Ben, je sais pas s'il y en a. C'est pour ça que je me suis pas rendu jusque-là. Mais c'est, dans le fond, les tours, ça fonctionne un peu comme... Je sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de What a Cowboy, même compagnie, un système assez similaire. Tu lances un nombre de dés déterminé, je crois que c'est 5, mais ça peut dépendre selon la valeur de ta force.
Okay.
Les résultats que tu as vont décider qu'est-ce que tu peux activer. Fait que sur un les 1 que tu as, tu peux activer des équipes. Puis là, les équipes, c'est dans une unité, tu as l'équipe de la mitrailleuse puis l'équipe de fusilier. Fait que tu peux en activer une des deux. Avec un 2, la section, donc c'est ton unité au complet, avec son leader. À 3, c'est le leader qui, lui, peut activer plus qu'une peut activer sa section avec lui. En tout cas, il y a toujours un côté aléatoire que tu ne pourras pas tout activer en même temps, mais ça fait aussi que tu fais rentrer tes unités avec ces jets-là. Fait que tu vas choisir ce qui est le plus stratégique pour toi puis les mettre proche du point de chute que tu as.
OK.
Au fur et à mesure. Et que, pareillement, l'ennemi ne va pas nécessairement rentrer toutes ses unités parce que ça va dépendre de ses jets au fur et à mesure puis ce genre de choses-là.
Fait que c'est ça la partie qui peut être un petit peu aléatoire.
C'est ça.
OK. Ben, tu vois, comme tu disais tantôt, il y a comme un parallèle à faire avec Warcry. Ou est-ce que Warcry, tu vas séparer ton armée en... Ben, ta Warband, mettons, là, en 3.
Ouais.
Puis, selon la twist que tu vas pogner dans un scénario. Parce que les scénarios peuvent déjà être faits pour toi où tu peux piger des cartes qui vont déterminer un peu ce qui se passe pendant la partie. Et la twist, habituellement, c'est ça la partie qui est intéressante, c'est que tu vas piger une carte. C'est ça qui va dicter le scénario, où est-ce qu'il s'en va, où est-ce que tu voulais, ou est-ce que tu veux pas, où est-ce qu'il s'en va. En tout
cas. Et voilà.
Une des twists, ça peut être, ben, un des tiers de ton armée ne rentrera jamais. Ou rentre à certaines conditions. Donc là, tu as des conditions de victoire qui sont déjà mises dans ton scénario. Et là, tu viens de rajouter la twist que si tu n'accomplis pas les objectifs secondaires que la twist vient de te donner, il y a un tiers de ton armée qui ne rentrera pas.
Ah ouais.
Fait que je pense que l'aspect aléatoire de tu peux pas jouer avec toute ton armée est intéressant. Ben, c'est peut-être pas nécessairement fait pour un jeu qui est plus compétitif. Si les gens cherchent quelque chose de symétrique, je pense pas qu'ils vont le trouver là-dedans. mais je pense pas que Chain of Command est un jeu qui doit être très, très utilisé dans les tournois.
Ce que j'ai compris, c'est que la communauté majorité est en grosse majorité une communauté narrative.
OK.
Mais on m'a dit les Australiens sont un peu bizarres, puis en Australie, il y a des tournois de Chain of Command.
OK. Mais dans leur tournoi, tu mettons qu'on parle de jeu narratif, est-ce que le jeu narratif, c'est on refait un scénario historique qu'on connaît déjà? Fait qu'on refait Churchill versus whatever. J'ai dit Churchill parce que c'est un nom d'histoire que je connais, OK. Pas parce que je sais qu'est-ce qu'il a fait. Je veux juste être sûr de remettre en place les attentes. Là.
Mais si j'ai bien compris, tu peux refaire une bataille, par exemple, Pegasus Bridge.
Okay.
Elle a la main ou quelque chose comme ça. Mais ils ont aussi, et ça c'est intéressant, des campagnes. Ils vendent des campagnes où c'est comme sur une échelle. Fait que selon les victoires, tu vas vers le bas de l'échelle ou tu vas vers le haut de l'échelle. Fait que selon qui gagne, ça fait descendre. Puis tu as des scénarios qui vont avec. Okay. Et là, ça te permet aussi, après ça, de customiser tes unités et leur armement.
OK, fait que les conséquences peuvent se refléter dans ton armée.
C'est ça.
Pas juste dans les scénarios.
Ouais.
OK.
Ces scénarios-là sont basés historiquement sur des moments précis de la guerre, mais leur système, ce que j'ai cru comprendre, est plus similaire à Croisade.
Ah oui, ben ouais. Je pense que c'est le way to go en général là, quand tu veux ajouter un petit peu de. Quand tu veux ajouter un petit peu de liberté pour les gens plus individuellement. C'est un petit peu de l'autogestion.
Oui. Mais puis ça, c'est un bon segue pour comment tu fais ton armée. Tu commences avec un peloton. Fait que tu un peloton, là, je vous ai mis une image pour l'Angleterre. Là. T'as ton lieutenant avec son armement, ton sergent, deux équipes. Là, tu vois, lui vient avec un mortier puis une mitrailleuse. Puis t'as trois sections, donc trois unités avec leurs officiers, leur light machine gun puis leur fusilier dedans. Puis ça, ça bouge pas.
Okay, c'est comme ton corps.
C'est ton corps d'armée, tout le temps. Fait que c'est basé historiquement sur comment un peloton de cette époque-là pour ce pays-là serait fait. Fait que sur papier, c'est historique. Là où moi, je me questionnais, c'est par exemple, dans d'autres jeux, ils vont te dire une unité d'infanterie anglaise de la Deuxième Guerre mondiale, c'est tandem, fait que le minimum c'est 5, fait qu'à partir de 5, là, tu peux payer des figurines additionnelles jusqu'au maximum de 10, mettons.
Okay.
Puis là, tu peux rajouter ton light machine gun, fait que c'est plus customisable. Ce qui fait que ça peut représenter le fait que ton unité, elle a perdu des hommes, ton unité, elle avait pas sa mitrailleuse, elle l'a perdu au combat.
Oh ouais.
Ce genre de choses-là. Tandis que dans ce jeu-là, c'est plus sur papier, une unité, c'est comme ça, fait que ça représente plus une unité qui arrive sur un théâtre d'opération qui est fraîche.
Fait que ça représenterait le point de départ, pas l'évolution et les conséquences.
Mais ce que John me dit, c'est que c'est là que dans la campagne, ça devient intéressant. Dans la campagne, là, tu vas perdre des gars. Là, ouais. Tu vas pouvoir ramasser des armées ennemies puis équiper tes gars des armées ennemies aussi.
Bah, fait que c'est un peu le principe de Necromunda.
Ça y ressemble, ouais.
Ou est-ce que tu commences avec une Warband fraîche de, mettons, 1000 crédits, tout le monde est pareil. OK. T'as de l'armement basic, OK. T'as un frame en général que tu peux utiliser, peut-être plus sévère dans celui-là, là, où c'est comme plus cadré. Là.
Ouais.
Mais un coup que c'est parti, wheels are off. Comme tu vas vivre les conséquences qui vont t'arriver, puis t'as des options supplémentaires qui se rajoutent, qui peuvent être de l'armement ennemi, qui se rajoutent dans tes units à toi.
Oui. Mais. Fait que mettons qu'on fait un scénario, toi et moi. On fait pas, là, je parle pas des campagnes, un scénario. Fait qu'on a chacun notre peloton de base. Là, si tu regardes sur l'autre feuille, t'as une support list, une liste de support avec liste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ouais.
Fait qu'une fois qu'on a fait notre phase de patrouille et qu'on a vu, on a fait notre reconnaissance du terrain, c'est là que les officiers décident qu'est-ce qu'ils envoient. Fait que t'as ton peloton de base, puis dans le fond, ils aiment pas ça appeler ça un système de points, mais c'est un système de points. Le scénario va dire qui a combien de points. C'est pas toujours, c'est souvent asymétrique. Là. Fait que si moi j'ai 3 points, ça se peut que t'en aies 4 et vice-versa.
Ouais.
Puis si je suis élite, ça va te donner des points bonus si toi t'es pas élite.
Ouais.
Mais là, tu vas choisir les supports. Fait que tu fais ta liste après le début de la game, après la phase patrouille.
Fait qu'après avoir su qu'est-ce que tu as fait comme choix, les résultats aléatoires qui viennent à.
C'est ça. Là, tu vas dire OK, j'ai. J'ai 5 points, je vais aller chercher un Light Tank Stuart.
OK.
Ou je vais prendre un sniper, puis un pre-game barrage.
Ouais.
Ça peut être un barrage aussi que tu achètes.
OK.
C'est intéressant. Là, c'est supposé. Il faudrait que je leur lise, mais je pense que c'est supposé être secret. Moi, il y avait un truc qui est arrivé dans notre game que. Je me disais, ça devrait pas être secret. Par exemple, Gabriel a choisi de mettre des champs de mines parce que ça me bloque mon chemin, puis sinon je me fais exploser si j'essaie de passer dessus. Là.
Ouais, ouais, mais oui, logique.
Puis moi, j'avais le choix de prendre des ingénieurs, des démineurs. Mais en théorie, si j'ai fait de la reconnaissance avant, j'ai vu les champs de mines.
Je comprends.
Fait que moi, en tout cas, j'en discute. C'est un truc que j'aimerais discuter avec John pour avoir son avis là-dessus, mais je me dis, des trucs comme ça devraient être déclarés avant. Comme ça, moi, je peux mettre un ingénieur à un démineur. Ou sinon, tu sais, ça peut créer des situations où tu mets des mineurs, il n'y a pas de champ de mine, puis là, t'es comme, ah, pourquoi j'ai mis ça? Puis là,
c'est... Est-ce qu'on est dans une zone grise un peu de la différence entre mécanique de jeu versus narratif? Qu'est-ce qui fait le sens?
J'ai l'impression. Ouais. Mais c'est pas le genre de truc compliqué, en tout cas.
Ben, ça t'arrange, là, je veux dire. Warhammer 40 000 font ça depuis fucking des années de mettre des... Ah oui, il y a des champs de mine, fait que tu peux faire telle affaire. Ouais, mais si j'ai mis telle affaire, moi, même si je ne savais pas pourquoi je l'aurais mis, je veux dire, c'est là depuis, genre, City Fight, là. Je veux dire, c'est...
Ouais.
C'est toujours le même débat, là. Ce bonhomme-là, il sert à quoi? Tu mettons le Master of Signal dans la rue Cérésie, tout le monde est comme, pourquoi je mettrais un Master of Signal? Ben, parce que là, le détachement est tellement d'en mettre un. Ouais, OK, mais en dehors de ça, j'en mettrais jamais un. Ben, non. Sauf si la personne de l'autre côté a décidé de mettre X affaire, là, ça vaut. Ah, OK, d'abord. OK, c'est bon. Fait que je pense que c'est du list building mécanique de jeu versus
ouais.
L'histoire qu'on veut raconter. Là.
Fait que moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça fait changement déjà. Mais ouais. Je trouvais ça le fun parce que, dans le fond, d'un côté, t'as le peloton de base qui fit avec la période, avec les armées qui ont été faites. Mais après ça, ça fait que tu vas faire ta petite liste. Selon le scénario que tu as joué. Fait que ça va moins encourager les listes all-commerce, ça va plus encourager le OK, j'ai une mission, qu'est-ce que j'ai de besoin comme outil pour réaliser ma mission? C'est ça que je trouve intéressant.
Mais c'est vrai que ça fait vraiment différent.
Puis ça je trouve que ça encourage d'avoir une belle collection aussi de modèles. Là, tu vas essayer d'aller chercher un peu tout pour te préparer à chaque scénario. Fait que tu vas avoir ton peloton de base, puis tu dis ah, si l'autre il met des
mille oui, joueurs. Parce que le scénario n'est pas encore clair pour toi au moment où tu choisis ton armée, justement. Ouais, je comprends.
Ouais.
Ça, je me pose la question. De l'autre côté, de choisir ton armée, mettons, all-commer, puis de ne pas savoir le scénario que tu t'en vas jouer nécessairement ou l'histoire que tu t'en vas raconter, ça ajoute pas justement une espèce de tendance à la maximisation, par exemple?
Mais si tu sais pas le scénario, tu sais pas t'as combien de points.
OK. Le débalancement, il est pas... Mettons, est-ce que le débalancement enlève au plaisir ou est-ce que le débalancement, il fait quand même un certain sens ou t'as quand même une capacité à pouvoir te défendre?
C'est une super bonne question. Faudrait que je joue plus ça. De game pour le savoir.
Je me doute bien que t'as pas la réponse t'as aujourd'hui.
Ben, ce que j'ai constaté jusqu'à maintenant dans mes essais avec les jeux historiques, c'est qu'une des grosses différences, c'est qu'il t'a pas sur la table un demi-dieu puis un humain.
Oui.
Ça fait que ça ramène pas mal tout presque sur le même niveau. Fait que c'est plus difficile d'avoir des gros débalancements parce que t'as un truc trop fort sur la table. Okay. Ça peut arriver, là, l'exemple qu'on m'a donné, je l'ai pas vécu personnellement, mais l'exemple qu'on m'a donné, c'est le King Tiger, qui est un tank allemand de la Deuxième Guerre mondiale, qui était redouté. Là. Il y a des histoires qui disent qu'il était redouté. Fait que pour ça, par exemple, dans Bolt Action, il avait donné une règle qui donnait des pin markers du stress à toutes les unités qu'il voyait. Fait que ça peut être chiant, mais à part ça, en général, un peloton contre un peloton, tu n'auras pas ces écarts-là. Un peu comme dans l'hérésie d'Horus, où on constate que c'est quand même plus sur le... Tu sais, c'est Space Marine contre Space Marine, là.
Ouais, je dirais même, moi, quand t'en parles, ça me donne l'impression de Seigneur des Anneaux. Là.
Ah, ben voilà.
Tu sais, voilà. Souvent, la comparaison qu'on faisait, mettons, quand je travaillais au magasin, c'était le pire match-up que tu peux avoir, c'est des humains de Minas Tirith contre des humains Easterling. Puis tu fais une démo de une bataille de démo avec ces deux armées-là.
Ils sont trop égales?
Ils sont trop pareils. C'est juste. Ils sont tellement pareils qu'ils ont les mêmes statlines ou presque. Puis ils ont. Pour une démo, pour une bataille plus complexe, plus complète, avec toutes les nuances, puis tous les outils possibles, là, il y a des différences qui se créent.
Ouais.
Mais ça reste que pour faire une bataille de démo, ben, ça revient au même que de rouler des dés, puis de dire, ben, sur 4 plus, tu l'as, puis sur 3 moins, c'est moi.
Ben oui. Puis tu sais, le scénario qu'on avait fait du Seigneur des Anneaux, là, sur Lake Town.
Ouais.
Le scénario est fait pour vivre un moment où tu essaies de te faufiler pour aller chercher quelqu'un.
Ouais.
À ce niveau-là, t'as beau être humain contre humain, les points ont plus tant d'importance parce que le scénario t'enligne sur une mécanique pour réaliser quelque chose.
Oui.
C'est plus grave, tu sais.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qui était le téléphone de ce scénario-là.
Oui, voilà. Vraiment.
Voilà. Non, mais c'est cool, David. Fait que tu vas pouvoir nous en reparler quand tu vas avoir joué un petit peu plus.
Exactement.
Est-ce que
oui?
Le jeu va être là le 4 novembre?
Non, malheureusement, il n'y a pas de partie de Chain of Command le 4 novembre, mais John devrait organiser d'autres parties d'initiation. Restez à l'affût. Puis on va sûrement publier des photos, peut-être des reels qui fonctionnent.
on a pleinement confiance. merci, David.
Ben, ça fait plaisir. Écoutez, un beau petit jeu, des nouvelles mécaniques intéressantes. C'est très inspirant.
Bon, ben, c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci, David, de cette belle chaîne de commandes. Ouais, je sais, je fais des traductions comme ça, mais je me sens sale quand j'ai fait. Je suis comme pas mal. Fait que si vous avez aimé l'épisode, gênez-vous pas. Allez sur Spotify, Balado Québec. Vous pouvez nous évaluer. On a déterminé un peu la semaine passée que le terme qu'on voulait utiliser, c'était peut-être évaluer. Fait que vous pouvez nous évaluer sur Spotify sur le nombre d'étoiles que vous pensez qu'on mérite. Donc, gênez-vous pas. On a évidemment les épisodes sortent à peu près à chaque semaine. On a la page Facebook Soirée Peinture Le Balado, qui est la page officielle sur laquelle est-ce qu'on annonce les épisodes, les événements, un peu tout. On a Soirée Peinture la communauté, Soirée Peinture la communauté, qui est le groupe sur lequel est-ce qu'on partage entre nous. On se donne des trucs, on répond à vos questions, on partage nos projets. Fait que pour vrai, c'est très vivant. On a dépassé les 230 membres, je pense. Fait que c'est vraiment cool. Puis on a du monde de toutes les sphères de vie possibles, ou presque. Donc, je n'ai pas, on a la page Instagram, soirée.peinture. Et je n'ai pas, partagez-nous vos opinions, vos commentaires, autant sur Spotify que sur les médias sociaux. On aime ça pouvoir vous lire, on aime ça avoir vos suggestions. Donc, gênez-vous vraiment pas. Et il nous reste juste une chose à dire. Max?
Bonne soirée peinture.
David?
Bonne soirée peinture.
Phil?
Yobnob.
Maudit wok. Bonne soirée peinture.